En sortant de la gare, ils se sentirent plus légers, presque joyeux. La place Crombée, verte et ensoleillée, s'animait des cris et des rires d'une bande d'excursionnistes lillois qui grimpaient dans des tapissières. Des cafés, dont les tables débordaient jusque dans la rue, s'échappaient des airs traînants d'accordéon. Angèle s'émerveilla devant l'étalage éblouissant d'un marchand de cigares. Fière de sa robe neuve et de sa taille fine, elle aurait voulu qu'on la prît pour une Parisienne. À l'hôtel où ils descendirent, dont ils connaissaient le patron, il demanda la meilleure chambre. Ils y déjeunèrent et toute l'après-midi burent du champagne. Il l'obligea à fumer des cigarettes sur le balcon, pendant qu'il jouissait à son aise de l'étonnement des promeneurs. Gris tous les deux, ils respiraient avec volupté l'air libre. Jamais le jeune homme ne s'était montré si gai. Il la fit chanter en déshabillé devant l'armoire à glace. Ils passèrent la soirée dans un cirque ambulant. Le lendemain, ils montèrent en haut de la cathédrale, visitèrent le trésor, et l'après-midi partirent pour Bruxelles. Après avoir retenu une chambre dans un hôtel proche de la gare du Midi, ils firent en voiture le tour des boulevards, prirent l'apéritif en face de la Bourse, dînèrent somptueusement dans un restaurant de la place de Brouckère et sablèrent le champagne au terminus. Titubant, ils sortirent. Il héla un cocher, paya 100 sous un dahlia qu'une pauvresse lui offrait et qu'il ne parvint pas à planter dans sa boutonnière, mit son haut de forme sur l'oreille, jeta dans la voiture une gerbe de fleurs. Il ne se tenait plus de joie. « C'est ça !» criait-il à sa maîtresse qui, pendant que doucement roulait la voiture, chantait et jetait des fleurs aux passants. Il s'épanouissait, renversé sur les coussins. « C'est ça, comme à Paris ! Chahut, vas-y !» Il regardait, méprisant, les promeneurs indifférents. « Il faut les épater ! On voit bien qu'ils n'ont jamais rien vu !» Et quand les boulevards devinrent déserts, il cria au cocher. « Maintenant, la tournée des Grands-Ducs !» Ils entrèrent dans les beuglants de la rue des Bouchers, firent du tapage, trouvant très amusant d'être mis à la porte. Dans les maisons closes, malgré l'ivresse, la jeune femme fut d'abord un peu gênée. Ils payaient du champagne, des cigarettes, exigeaient que les filles qui les servaient et buvaient avec eux fussent nues, leur commandaient de chanter, de danser. Essoufflée, elle s'arrêtait et disait de ce ton humble qui fait de la prostituée belge une mendiante dévêtue « Donnez-nous de l'argent !» Vous êtes riches, vous autres. » Elles se fussent contentées de quelques francs. Il leur jetait des pièces de 100 sous. À la fin, Angèle, dont la tête s'embarrassait de plus en plus, racontait aux filles émerveillées qu'elle aussi avait été une femme de maison close, et elle ne mentait qu'à demi. Que Gaston était son type, et celui-ci, ravi de passer pour un souteneur, prenait l'accent crapuleux des faubouriens, et dans un argot pénible, disait en bavant quelques grossièretés. À peine rentrée à l'hôtel, la jeune femme fut jetée sur le parquet par une terrible crise de nerfs. Gaston et un garçon accourus au bruit la ligotèrent, lui jetèrent de l'eau à la face, lui firent respirer et avaler de l'éther, et la mirent au lit. Quand elle fut revenue à elle, elle essaya de rire, puis pleura sans savoir pourquoi. Le lendemain, ils se promenèrent en voiture au bois de la Cambre, et dans ce décor de verdure et de lumière, ils se trouvèrent heureux. Quand je pense qu'il y a 5 jours, je m'abrutissais encore à la caserne, et toi dans ta rue de la Parcheminerie, est-ce qu'on n'est pas mieux ici ? Angèle convint qu'il avait raison. « Vois-tu, continua-t-il, tu dois te laisser guider par moi. Toi, tu ne connais pas la vie, tu as des préjugés, tu ne raisonnes pas. Moi, j'ai vécu, j'ai des idées modernes et je ne suis pas un niais. » Après un fin dîner, ils se rendirent au théâtre où l'on jouait une revue. Successivement, les nations de l'Europe, représentées par de jolies femmes, défilaient sur la scène. L'orchestre attaquait l'hymne national, et l'actrice chantait quelques couplets qui s'efforçaient d'être humoristiques. Quand la France parut, drapée dans un péplum tricolore, et que la Marseillaise retentit, les deux jeunes gens sentirent un frisson qui leur laissa les yeux humides. Un de leurs voisins se leva, siffla, et avec un fort accent flamand hurla « À bas la France !»« Tais-toi, Breton !» cria Gaston qu'il saisit par le col de sa jaquette, pendant que sa maîtresse, blanche de colère, tirait les pans. On les poussa tous trois vers la sortie. Le flamand fila, et tout en buvant de grands bocs de Munich, les deux déserteurs se félicitèrent d'avoir fait respecter le drapeau français. Après une excursion de 2 jours à Anvers, où il montra la même insouciance et la même prodigalité, ils s'installèrent à Bruxelles, dans un hôtel modeste de la rue de la Violette. La foire du Midi battait son plein. Ils s'y promenaient toute la journée en voiture, puis à pied. Un jour, il s'aperçut qu'il compterait d'un regard les louis qui restaient dans son porte-monnaie. Aussi le refermait-il vite pour ne pas prévoir le moment où il serait vide. Elle n'y songeait pas. Lui devenait soucieux. Enfin, il lui avoua que l'argent diminuait. « Déjà ? » fit-elle. L'hôtelier se renfrognait. Ses clients sortaient à pied ? Ne buvaient plus de champagne ? Un matin, il fit appeler le jeune homme et lui présenta sa note. Il la prit, remonta sans rien dire, ne pouvant la quitter. Angèle fut atterrée. Comment n'avait-il pas prévu cela ? Quand elle pensa à tout l'argent gaspillé, elle eut un remords qui la rendit toute pâle. Que de louis, de pièces de 100 sous jetées au premier venu ! Que faire ? Elle revit sa mère, se lamentant 3 mois avant l'échéance du fermage, disant qu'elle ne pourrait le payer, qu'elle mourrait sur la paille, qu'on la mettrait en prison. Laisser une dette impayée lui apparaissait comme une humiliation et un déshonneur. Avec quelle fierté ses frères, ses parents, ses voisins du village ne disaient-ils pas « Nous ne devons rien à personne ?» Gaston susautait un cigare éteint. Cet imbécile d'hôtelier aurait bien pu attendre. Une idée ? Si tu demandais un peu d'argent à ta mère, pas beaucoup, 300 francs par exemple. Ces paroles parurent si étranges à Angèle qu'elle ne répondit pas tout d'abord. 300 francs ? Demander 300 francs à la mère Renson ? Mais ni Dieu ni diable ne lui arracherait un sou. À quoi songeait-il ? Ne connaissait-il pas les paysans ? Ce ne sont pas des gens à l'esprit large qui comprennent la vie, comme ses parents à lui. Ils ont les idées étroites, des idées de village. D'ailleurs, l'argent est rare chez eux. Ils n'ont que celui qu'ils gagnent. Ils en gagnent peu et ne le donnent jamais. « On n'a plus qu'à se tuer alors » dit-il. Elle l'embrassa. « Oui, cela vaut mieux » s'écria-t-elle, en cherchant un revolver dans la valise. « Nous écrirons sur une feuille de papier que nous voulons être enterrés ensemble. » Il sauta sur sa chaise. « Ne joue pas avec ces outils-là » cria-t-il. « Tu en as des idées. Est-ce que tu me prends pour un benêt ? Descendons. » L'hôtelier aux aguets les laissa passer quand il vit qu'ils n'emportaient pas leur valise. Ils marchèrent quelque temps en silence sous une petite pluie froide. Le jeune homme tira de sa poche une pièce de 5 francs et quelques sous. « Voilà ce qu'il nous reste. Il nous faut gagner tournée. Nous nous installerons chez l'hôtelier que je connais. » « Et l'argent pour prendre les billets ? J'aurais bien une idée. Nous allons engager ta robe. »« Ma robe ? » dit-elle sans comprendre. « Oui, ta robe. Nous en tirerons 50 francs. » Elle se laissa conduire chez une brocanteuse de la rue de l'Étuve, une grosse femme rouge et réjouie qui s'apitoya. Rapidement, les doigts en crochet, elle enleva le lacet et, en voyant à terre sa belle robe grise, garnie de rubans vieil or, mise avec tant de joie 8 jours auparavant, la jeune femme silencieusement pleura. « Ne vous désolez pas, » fit la fripière. « Il y en a tant comme vous. Je vous promets de ne pas vendre votre robe avant 1 mois. Tenez, voici un beau billet de 20 francs qui vous consolera. » Angèle endossa son paletot-sac et les deux jeunes gens sortirent. Aussitôt, Gaston envoya un télégramme à son oncle de Charleville en lui donnant son adresse à Tournai. Ils arrivèrent à la gare du Midi à 11 heures du soir. Le dernier train était parti. Il fallait attendre celui de 5 heures du matin. Jusqu'à 1 heure, ne s'adressant que de rares paroles, ils firent les 100 pas dans les salles d'attente. Quand elles furent fermées, n'ayant pas assez d'argent pour se rendre dans un restaurant de nuit, ils s'assirent sur un banc du square. Il pluvinait toujours. Angèle grelottait sous son manteau léger et pleurait. Gaston regardait fixement devant lui. Parfois, il se levait et, pour se réchauffer, faisait le tour de la place de la Constitution où quelques femmes en cheveux rôdaient encore, et se rasseyait, plus morne, sous la pluie moins froide que la sourde rancune qui bruinait dans leur cœur. Lorsqu'enfin ils purent monter dans un compartiment de 3e classe, avec une bande de flamands qui partaient faire la moisson en Beauce, ils se jetèrent chacun dans un coin et somnolèrent jusqu'à Tournai. En arrivant à l'hôtel, Angèle revit le balcon où elle avait fumé des cigarettes et fut honteuse. Elle se coucha pendant que Gaston adressait à son oncle un second télégramme et qu'il écrivait à son père. Ils attendirent 2 jours, pas de réponse. Tous deux étaient tristes, se parlant peu, évitant de se regarder, comme si chacun avait à faire à l'autre un aveu difficile. Ils songeaient à la séparation prochaine, mais ni l'un ni l'autre ne voulaient en parler le premier. Le surlendemain, Angèle faisait sa toilette lorsque Gaston passa la tête dans la porte entrebâillée. « L'oncle est là !» et disparut. Dans l'escalier, une grosse voix criait « Si cette putain est ici, je la tue !» Gaston lui assura qu'il l'avait quittée à Anvers depuis 3 jours. L'hôtelier, lui, jura qu'il ne recevait pas ces femmes-là chez lui. Apaisé, le vieux fit à son filleul une bruyante morale en payant à boire à tous ceux qui lui tombaient sous la main. Le soir, l'oncle et le neveu partirent pour Bruxelles. La note de l'hôtel fut réglée, la robe dégagée et les valises expédiées à Tournai. Le vieux voulut visiter la ville et pendant 2 jours fatigua le jeune homme qui se rongeait les sangs, sentant que sa maîtresse devait se lamenter. Il avait pu monter 2 fois dans sa chambre le jour de l'arrivée de l'oncle et la rassurer. Il lui écrivit plusieurs lettres de Bruxelles. Mais enfin, puisque son bavard de parrain avait tout payé, pourquoi s'acharnerait-il à rester en Belgique ? Rentré à Tournai, celui-ci voulut visiter la ville. Gaston dut le conduire dans toutes les rues et subir ses remarques saugrenues. Le vieil Ardennais s'arrêtait devant les vitrines, critiquait tout, avait toujours soif, entrait dans les estaminets douteux où il tutoyait les serveuses, forçait son neveu à boire de grandes pintes de bière âcre, trouvant qu'à Charleville, la bière était meilleure, la cuisine meilleure, la ville plus propre et les femmes plus jolies. L'hôtelier le persuada que Gaston, intelligent et instruit, obtiendrait facilement un emploi à Tournai. Le vieux s'engagea alors à payer sa pension et à envoyer 200 francs par mois jusqu'à ce qu'il fût embauché, régla sans discuter la note exagérée qui lui fut présentée et enfin, le lendemain matin, partit. Avec un air embarrassé, Gaston rendit compte à sa maîtresse de la visite de son oncle. Celui-ci l'avait menacé de lui couper les vivres, s'il apprenait qu'il vivait avec la déserteuse. L'hôtelier, qui tenait à conserver un si bon client, lui conseillait de la quitter. Le jeune homme disait cela avec une gaucherie qu'il exagérait volontairement, en se promenant avec Angèle sur la place Crombée. Elle comprit qu'il lui disait de s'en aller. Brusquement, elle se tourna vers lui. « Lâche !» Et en même temps, d'un geste si rapide qu'il la surprit elle-même, elle lui claqua un soufflet en plein visage, puis s'assit sur un banc et sanglota, la tête dans les mains. Rentrant sa colère, il tenta de se justifier, voulut lui persuader qu'elle l'avait mal compris, qu'il ne s'agissait pas de rupture, elle n'entendait même pas. Des gens s'arrêtaient et partaient, amusés. « Ne restons pas ici, nous sommes ridicules. Et au balcon, nous ne l'étions pas ridicules, quand tu me faisais fumer des cigarettes ? J'avais l'air d'une putain et toi d'un Jean-Jean. » Il fut froissé d'être traité de Jean-Jean. « Dire que j'ai déserté pour ça. Moi, j'ai fait bien pis. Au bout d'une semaine. » Il ne s'en passera pas d'eux. Reste ici. Fais-toi entretenir par ton oncle, puisque tu as de la chair morte sous les bras. Moi, je retourne chez moi. » Il voulut qu'elle rentrât à l'hôtel pour qu'elle fît au moins sa valise. « Je n'ai rien à moi. Tu pourras porter tes robes à la brocanteuse. » Craignant l'esclandre, il n'osa la retenir de force. Il espérait qu'elle n'oserait retourner chez elle, qu'elle reviendrait frapper à sa porte comme le jour où il l'avait jetée sur le palier. Mais déjà la jeune femme avait filé à la gare. Elle courut vers le train de France qui démarrait. À Lille, la tête bourdonnante, incapable de sortir de la tête cette idée. « Je retourne chez ma mère. » Elle attendit l'express de Busigny. Après 2 heures d'express, 2 heures de tortillard et 1 heure de marche, à 10 heures du soir, exténuée, elle se trouva devant la grande barrière de la ferme paternelle. Elle glissa à pas silencieux entre le haut tas de fumier et la haie du jardin, et arriva dans la cour déserte. Dans l'obscurité bleutée de cette nuit de juillet, on distinguait les toits des bâtiments, sombres sous les cimes des noyers. Des charrettes allongeaient leurs brancards sous la remise, comme des bras de dormeurs. L'eau de l'abreuvoir luisait doucement. En se trouvant brusquement au milieu de ces choses familières, qui semblaient être restées les mêmes exprès pour elle, la petite Rençon se mit à pleurer des larmes chaudes qui la calmèrent. Sur la pointe des pieds, elle traversa la cour et s'arrêta devant la grande fenêtre de la cuisine, à peine éclairée par la lampe à l'huile qui brûlait sur la table. La mère n'était pas couchée. Angèle la voyait aller et venir, de l'âtre à l'armoire, de l'armoire à la table, et ses sabots claquaient sur les dalles. Enfin, elle s'assit au coin du feu, les coudes sur les genoux, les mains croisées, regardant les braises avec une expression de tristesse que sa fille ne lui connaissait pas. Angèle s'attendrissait de ses gestes prévus. Elle savait que chaque soir il en était ainsi. Malgré les larmes qui lui brûlaient les yeux et la crainte qui la faisait grelotter, elle frappa. « Qui est là ?»«
Angèle. »«
Qui ?»«
C'est moi, ta fille. »«
Je ne vous connais pas. »«
C'est moi, Angèle, ta fille. » »«
Ma fille a un mari, elle ne roule pas. » »«
Pardon, maman, dis maman, si tu savais comme je suis malheureuse. » »«
C'est bien fait. » Enfin, la mère ouvrit la porte, se tint debout sur le seuil, la lampe haute.
« Pardon, maman. »«
Ah, tu portes chapeau et voilette et des robes de putain. Veux-tu foutre le camp ?»«
C'est fini, maman. Je travaillerai avec toi. »«
Veux-tu filer ou je te fracasse la lampe dans la figure ?»«
Laisse-moi me reposer. Je partirai demain. »«
Tu ne mettras pas les pieds ici. »«
Donne-moi un morceau de pain, je meurs de faim. »«
Tu n'as pas encore ce que tu mérites. »
« Laisse-moi dormir un peu dans la grange, je partirai avant le jour. »«
Si tu n'es pas parti dans 5 minutes, je te lâche les chiens. »«
Maman, tu reçois bien les cheminots. »«
Je ne loge pas les putains. File ou j'appelle tes frères. » Elle claqua la porte, puis la rouvrit. « Et si je te trouve demain autour de la maison, je te recevrai au bout d'une fourche. »
La porte claqua de nouveau. La clé grinça dans la serrure. La lumière s'éteignit. Angèle ne pouvait croire qu'elle était repoussée de cette vie, si facile à reprendre. Nulle hostilité ne venait des choses. Sous la petite remise, on distinguait la carriole chargée de cannes, dont le cuivre avait des reflets très doux dans la clarté de la lune qui pointait en ce moment au-dessus de la fenêtre de son ancienne chambre. La carriole partirait le lendemain matin. Les cannes tinteraient. Les vaches lourdes de lait meugleraient en soufflant du brouillard par leurs naseaux roses. Pourquoi Angèle n'irait-elle pas les traire, comme autrefois, elle qui savait d'avance comment se passeraient les heures dans les pâturages verts et roussâtres? Des écuries et des étables sortait une rumination de vie paisible et heureuse. Un cheval s'ébroua. C'était Mumuche. Une poule caqueta longuement comme si elle pondait un œuf en rêve. Seule la maison d'habitation où dormaient ses frères, où venait de s'enfermer sa mère, était silencieuse et mauvaise. Angèle n'avait pas bougé. Elle pleurait à quelques pas du seuil clos et son grand chapeau à plumes faisait une ombre étrange sur le mur. Puis, en trébuchant, elle traversa la cour, s'assit quelques instants sur la margelle du puits. Brusquement, elle se leva, marcha à grands pas jusqu'à la barrière et, au moment de franchir la porte, se retourna vers les bâtiments de la ferme qui se découpaient durement sous la lune et, d'un geste de colère, tendit son poing frêle.
« Tas de sang-cœur ! Assassin !»
Vraiment, elle souffrait trop. Tant de douleurs pouvaient-elles être vécues en une seule journée? Assise au revers du fossé de la grande route, auprès d'un buisson, c'est là qu'autrefois elle se cachait pour nouer des rubans dans ses cheveux, elle revécut les 8 jours de joie et de soleil si vite passés, se sut gré d'avoir engagé sa robe. 11 coups fragiles tintèrent au carillon de Mongicourt. Elle les écoutait comme on regarde le retour d'oiseaux familiers. Puis elle remâcha sa douleur. Son amant n'était qu'un lâche. Sa mère n'avait pas de cœur. Si ses frères la trouvaient là, ils l'assommeraient, comme autrefois dans le pré. Anéantie de douleur, de fatigue et de faim, il lui semblait que dans sa tête bruissaient des cigales et couraient des fourmis. Dans la nuit claire, on entendit un bruit dansant de grelots, le trot d'un cheval. La lanterne d'une voiture éclaira le détour du chemin. C'était la carriole de Monsieur Hardy, un gros marchand de grains de Mongicourt. Le cheval s'arrêta net. Angèle se redressa péniblement.
« N'est-ce pas Madame Varnier ?»
Honteuse d'être nommée ainsi, elle fit quelques pas en arrière. L'homme sauta sur la route.
« Qu'y a-t-il ? »
Elle sanglota.
« Pourquoi ne rentres-tu pas à la maison ?»
Elle fit signe que non.
« C'est parce qu'on a parlé un peu de toi dans le village que ta mère est fâchée. Elle se calmera. »
Heureuse d'entendre des paroles ni hypocrites ni méchantes, elle pleurait des larmes qui délivrent.
« Allons, tu ne peux rester ici. Viens jusqu'à la maison. Nous verrons demain ce qu'il faut faire. »
Angèle monta dans la carriole et, un peu calmée, lui raconta tout ce qu'elle ne pouvait cacher. La voiture entra dans la cour de la maison isolée sur la grand-route. Monsieur Hardy appela sa femme. « C'est Angèle. Ne lui demande rien pour le moment. Donne-lui à manger et un lit. Je te mettrai au courant. » À table, la fugitive se laissa servir comme un enfant. Madame Hardy l'aida à se déshabiller. Elle se coucha et s'endormit aussitôt. Il faisait grand jour quand elle s'éveilla. Pour éviter sa pensée, elle demanda un tablier, des vêtements de travail, rangea dans l'armoire sa belle robe et son chapeau, et tout de suite se mit à l'ouvrage. À midi, M. Hardy rentra, et aussitôt après le repas, dit à Angèle. « J'ai vu ta mère ce matin, il faut attendre un peu. Elle est plus têtue que la bourrique de Robespierre. Ne pleure pas, voyons, ça s'arrangera. » « N'es-tu pas bien ici ? » ajouta sa femme. « Tu m'aideras, le travail ne manque pas. Reste avec nous, tu nous rendras service. »« Patiente, ta mère pardonnera. Quand ton mari reviendra au pays, il te reprendra. Tout s'oublie. On passe sur tant de choses dans la vie, » soupira-t-elle, malgré l'expression subitement renfrognée du visage de son mari. Angèle s'habitua à vivre chez les Hardy, travaillait ferme, ne pleurait plus qu'en s'éveillant, en se couchant, et lorsque le marchand de grains revenait de la cense de Ratantou. « Ta mère est une vieille mule, » disait-il. Cependant, au bout de 15 jours, il en arriva rayonnant. « Ta mère est, au fond, une brave femme. Elle m'a répondu, « On verra. »« Es-tu contente ?»« Oh oui, » répondit-elle sincèrement. Le lendemain, elle cousait auprès de la fenêtre, lorsque le facteur qui passait dans la rue lui tendit une lettre, un timbre belge. Elle vient de Tournai. Elle se leva, comme si elle avait reçu un coup de fouet sur les reins. Gaston lui écrivait qu'il ne pouvait vivre sans elle, qu'il l'attendait, et joignait à la lettre un billet de 50 francs. Un saut à l'armoire. Elle tire son linge, sa robe, son chapeau. En un clin d'œil, elle est habillée. Monsieur et Madame Hardy rentrent. « Qu'y a-t-il ? » « Ah, oh, tu as reçu une lettre !» dit le vieux en voyant l'enveloppe sur la table. Les deux vieillards désolés essaient de la retenir. « Tu ne partiras pas, tu nous l'as promis. Et ta mère qui veut bien te reprendre ? Réfléchis jusqu'à demain. » Rien à faire. Elle tremble si fort qu'elle n'arrive pas à fixer les épingles de son chapeau. Elle remercie les deux braves gens qui tremblotent, les embrasse et s'enfuit. Interminable le trajet. Les trains ne marchent pas. Les voyageurs n'en finissent pas de sortir. Enfin, voici la place Crombée. Gaston, encore dans les bras l'un de l'autre. Il gagne l'hôtel.